Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série la plus importante, à mon avis, sur les questions bibliques et de notre foi dans notre Seigneur bien-aimé. C'est bel et bien le thème de la prière, l'étude sur la prière. Et pour aujourd'hui, pour le numéro 27, nous allons essayer de comprendre que la prière est une requête très précise. Donc, je répète, la prière est une requête qui est précise. Chers frères et sœurs, combien de personnes multiplient leurs requêtes sans jamais obtenir quoi que ce soit du Seigneur, et ils ne s'attendent même pas à obtenir quoi que ce soit. Ce qu'ils appellent prier n'est pas la véritable prière, n'apportant à Dieu aucune requête définie et aucune demande précise. Quant à moi, quand j'entre dans un magasin de chaussures, par exemple, je choisis l'article qui me convient, je le paye et je l'emporte. Et la transaction ne dure le plus souvent pas plus de 10 minutes. Je ne perds pas mon temps à examiner tous les étalages à la ronde, mais je me procure sans hésitation la chose dont j'ai vraiment besoin et c'est fini. Donc voilà en quoi consiste notre prière. Il s'agit en effet de demander à Dieu quelque chose de bien défini. Il est dit en Saint Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre évidemment à celui qui frappe. » La prière consiste donc à demander. En d'autres termes, c'est chercher et frapper à la porte. Celui qui prie doit s'attendre à recevoir tout comme l'homme qui frappe à la porte s'attend à la voir s'ouvrir devant lui, tout comme celui qui cherche quelque chose s'attend à le trouver. Et c'est précisément d'après la parole de Dieu en cela que consiste la véritable prière. Il est dit dans Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. » Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, et ceci dans le but de satisfaire tout simplement vos passions. Donc, les chrétiens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas ou parce qu'ils demandent peut-être pas tout à fait correctement. Et ce verset nous dit bien qu'il ne s'agit pas de désirer, de convoiter, de lutter, mais de demander afin d'obtenir de Dieu nos requêtes. Il y a deux termes différents dans le Testament grec, traduits tous les deux par « demander ». L'un signifie « demander » sans le sens de poser une question. L'autre mot implique l'idée de réclamer, désirer, faire appel pour une chose qu'on veut vraiment obtenir. Ce terme revient par 30 fois dans le Nouveau Testament, toujours traduit par « demander ». Les modernistes ne croient pas que la prière puisse changer les circonstances de la vie. Ils n'admettent pas que la prière consiste à demander en vue de recevoir, à chercher afin de trouver, à frapper pour que la porte soit ouverte par Dieu en réponse à la prière. Ils ne croient pas à la doctrine biblique qui présente Dieu comme toi qui écoutes la prière, comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Refusons d'admettre que la prière consiste à demander ce que Dieu répond tellement et réellement à ses enfants. Il désire répondre à ses enfants. Et tous ces rationalistes nous enseignent que la prière n'est pas autre chose qu'une douce méditation dans la communion avec Dieu. Ils admettent tout au plus qu'elle peut nous faire du bien, pourquoi pas, et ceci d'une façon subjective, et nous procurer quelques jouissances spirituelles et décourager toutes les requêtes précises qu'il taxe d'égoïsme. Premièrement, voyez-vous, la prière, excusez-moi, j'ai le rhume, la prière n'est pas la louange, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas la méditation, l'humiliation ou la confession, mais c'est une requête précise. Entre autres, puisque je vous ai parlé que j'ai le rhume, je demande au Seigneur que je puisse vous parler sans être trop ennuyé par ce rhume, et il va le guérir, l'enlever, et je le crois, dans le puissant nom de Jésus-Christ, je le sais. Oui, mes très chers amis, la prière n'est pas la louange, bien que la louange soit une chose bénie entre autres. Et celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, il me glorifie. C'est ce que dit le Seigneur dans le psaume chapitre 50, verset 23. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Encore le psaume 150, verset 6. Et David s'écrie, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Psaume 103, verset 1. Ô gloire à Dieu. La louange est le devoir de tout cœur reconnaissant, mais rappelons-nous surtout que la louange n'est pourtant pas la prière, pas plus que la prière n'est la louange. C'est pas pareil. Prier, c'est un peu autre chose, c'est de demander. Et la prière n'est pas non plus l'adoration. Nous devons, sans nul doute, nous devons, il est clair, adorer celui que les anges adorent. C'est la moindre des choses. Ah là là, alors les saints anges de Dieu qui ont donné toute leur fidélité, ils ne sont pas partis avec l'ennemi. Et c'est merveilleux. Et nous devons essayer. Je dois tout faire pour être aussi fidèle que ces saints anges. La prière consiste donc essentiellement à demander et pas autre chose. Elle n'est pas non plus la méditation. Il est bon et désirable de méditer jour et nuit dans la parole de Dieu. C'est une chose précieuse que de se recueillir dans le silence pour méditer sur la parole et sur les bénédictions de notre Dieu. Et tout chrétien doit connaître ces moments bénis consacrés à la méditation. Mais souvenez-vous que cela ne remplace pas la prière. Non. La Bible ne se rappelle bien de tout cela et la Bible ne l'appellera jamais la prière. C'est pas pareil. La prière n'est pas la méditation, elle est l'acte de foi très précise qui demande quelque chose de précis à Dieu. Comme moi, maintenant, pour ce vilain rhume. Ah oui, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. L'humiliation n'est non plus la prière. Et bien qu'il soit convenable, tout à fait, pour les chrétiens de s'humilier devant Dieu, et nous devons le faire, Il nous est dit dans Jacques, chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Oh là là, merci Seigneur. Et encore, « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Saint Luc, chapitre 18, verset 40, non, Saint Luc, chapitre 18, verset 14. L'humiliation doit donc être distinguée de la prière, bien qu'elle en soit toujours la préparation. Ainsi, nous lisons dans 2 Chroniques, dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple s'humilie et prie, montrant ainsi qu'il s'agit de deux choses bien différentes. La confession n'est pas à proprement parler la prière. Cependant, les chrétiens sont appelés à confesser leurs péchés et la Bible nous le recommande bien des fois. Dans Daniel, chapitre 9, verset 4, le prophète nous dit « Je prierai l'Éternel à mon Dieu et je lui fis cette confession, etc. » Et en lisant tout le passage, là vous verrez qu'une grande partie de ce chapitre est consacrée à la confession, mais qu'elle est suivie d'une ardente prière. Je crois versets 16 à 19 du chapitre 9 de Daniel. Et là, Daniel, le cœur brisé, il plaide avec Dieu pour qu'il détourne d'Israël sa colère et qu'il pardonne les péchés de son peuple, qu'il restaure la nation et la sainte cité de Jérusalem avec son temple. Donc, la confession est juste et bonne, mais elle n'est pas vraiment la prière. La prière, je le répète, consiste exclusivement à demander, comme je l'ai fait tout à l'heure pour mon rhume. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Notez bien que la prière est une chose, l'action de grâce en est une autre. En retenant ce principe, parcourez les Écritures et vous trouverez qu'il est question souvent de prières et de supplications, de prières accompagnées de confessions ou d'actions de grâce. Ainsi, le cœur même de la prière, c'est de demander quelque chose à Dieu. Et quand Dieu nous invite à prier, c'est afin que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. Sachez que, puisqu'on doit humblement, toujours tout reconnaître, faut pas avoir honte de ses faiblesses. Et avant de commencer à vous parler, eh bien, j'étais pas très sûr, car ma voix, ça n'allait pas du tout. Et j'ai demandé que le Saint-Esprit, oh gloire à Dieu, que le Saint-Esprit s'empare de ma bouche. Pourquoi pas ? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Au contraire, nous avons la possibilité de demander au Seigneur toute chose, de nous venir en aide par son Esprit Saint, le Paraclet, qu'il nous a offert. Alléluia! Quelle merveille! Et deuxièmement, chers amis, les prières bibliques consistaient à demander toujours. Considérons donc un moment la prière du Seigneur qui est le modèle par excellence que Jésus-Christ nous donne dans Saint Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Priez ainsi, nous dit-il. Par exemple, souvenez-vous, tous les jours, on ne doit jamais l'oublier, notre Père qui est aux cieux. Puis toute une série de requêtes suivent ce notre Père merveilleux. Premièrement, que ton nom soit sanctifié, ce qui en revient à demander pour nous-mêmes comme pour les autres, que nous ne prenions jamais son saint nom en vain, mais en parlions toujours avec le plus profond respect. Deuxièmement, que ton règne vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là une prière pour l'avènement du Seigneur, puis pour hâter sa venue et l'établissement de son royaume ici-bas, dans le triomphe sur tous ses ennemis. Et c'est cette même prière qu'exprime l'apôtre Saint Jean, le disciple, comme vous le savez, qui était, on s'en souvient, le disciple bien-aimé. Et par inspiration divine, dans Apocalypse chapitre 22, verset 20, il est dit « Viens, Seigneur Jésus-Christ, viens ». Troisièmement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quatrièmement, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, combien c'est important. Cinquièmement, ne nous induis pas en tentation. Et sixièmement, mais délivre-nous du malin. La prière se termine par une très simple raison pour laquelle notre Père Céleste peut et veut nous accorder ses grâces. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière dominicale est une pétition tout le long. C'est vraiment une pétition. Et il nous est ordonné de prier selon ce modèle-là. Quand la Bible parle de prier, il s'agit toujours de demander. Dans les évangiles, Jésus-Christ nous donne bien des exemples de prière. Il nous dit qu'elle est semblable à un homme qui frappe à la porte de son ami pour lui demander trois pains, ou à une veuve qui plaide avec le juge en disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Elle est encore comparable à un enfant qui demande à son père du pain ou un poisson ou un œuf, etc. Et selon le Seigneur, la prière est une affaire des plus simples. Et quiconque sait formuler une demande, quelle qu'elle soit, est aussi capable de prier. Disons Alléluia. Et ces cas de prière mentionnés dans le Nouveau Testament en sont aussi l'application très simple. Les gens demandaient ce dont ils avaient besoin et ils l'obtenaient de lui. Dans Saint Luc chapitre 18, verset 14, le publicain dans le temple a prié ainsi. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et il rentra chez lui, absolument pardonné et sauvé. Alléluia. Et dans Saint Matthieu chapitre 14, verset 30, l'apôtre Pierre, quand il allait sombrer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » et le Seigneur étendit la main pour le secourir. Dans Saint Marc, chapitre 10, verset 47, l'aveugle Bartimée, au bord de la route, il cria très fort « Fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. » Et puis, il spécifia ensuite « Seigneur, que je recouvre la vue, s'il te plaît. » Et il fut instantanément exaucé. Dans Saint-Luc, chapitre 23, verset 42, nous avons le brigand sur la croix qui pria pour le salut de son âme en disant « Souviens-toi de moi. » Et le Seigneur, il l'a sauvé et il a pris même le soin de le prendre avec lui dans le paradis. N'est-ce pas merveilleux? Dans Saint Matthieu, chapitre 15, verset 22, la femme cananéenne, elle pria, « Aie pitié de moi, Seigneur, ô fils de David, ma fille, elle est cruellement tourmentée, et ceci par le démon. » Et encore, Seigneur, secours-moi. Continuons à prier jusqu'à ce qu'elle a eu obtenu tout ce qu'elle désirait. Et croyez-moi, il est dit que sa fille a été totalement délivrée et guérie. Le fait est que la seule prière du Nouveau Testament qui soit proposée comme un sujet de désapprobation et de mépris, c'est celle, malheureusement, du pharisien qui nous est rapportée dans Saint Luc au chapitre 18, « Car cet homme priait en public longuement et à haute voix, mais il ne demandait rien du tout. » C'est donc là une sorte de prière que Dieu a carrément en horreur. Voyez-vous, nous sommes si faibles, et je peux en parler. Nous sommes si faibles, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, n'oublions pas. Et Dieu est si puissant et si miséricordieux que la seule relation possible entre lui et nous, la seule juste et convenable, et que nous fassions, c'est donc que nous fassions les demandes, hein, et qu'il nous accorde ses dons en retour. Répétons cela, nous sommes tous, qui que nous soyons, même avec des muscles terribles, nous sommes fragiles. Et Dieu est si puissant et si miséricordieux que la seule relation possible entre lui et nous, tant que la seule juste et convenable, hein, est que nous fassions les demandes et qu'il nous accorde tous ces dons qu'il a en réserve pour nous en retour. Et quand l'homme est occupé de la valeur et de l'importance de son service pour Dieu, eh bien cela touche au blasphème et à l'incrédulité, voyez-vous. Mais qu'un pauvre pécheur confesse sa misère et qu'il commence à l'invoquer pour obtenir ce que sa grâce lui offre, voilà donc la prière normale et qui est légitime. Est-ce que vous demandez vraiment, chers amis, quelque chose à Dieu quand vous vous imaginez de prier? Il y a tant de gens qui font dans la prière comme ces dames qui admirent les déventures des grands magasins, mais elles ne rapportent rien dans leurs mains. La prière n'est pas une promenade de curiosité pour voir ce qu'il y aurait d'intéressant, mais bien une transaction positive pour l'acquisition des biens que Dieu nous promet. Tant de soi-disant prières ne demandent rien du tout. C'est pourquoi elles ne reçoivent rien non plus. Troisièmement, voyons un peu de plus près l'hypocrisie des soi-disant prières qui ne demandent rien à Dieu. Dans toutes les églises du pays, les pasteurs ont l'habitude d'égrener la ritournelle de la prière du matin. Mais ce n'est en général qu'un pieux discours, fort bien préparé, il est vrai, ressemblant plutôt à un petit sermon adressé aux auditeurs qu'à une prière qui monte vers Dieu. Son but, je suppose, est de créer une jolie atmosphère de recueillement, mais il est bien rare qu'une telle prière comporte aucune requête qui soit précise. En général, dans leur prière en public, les gens ne prient pas vraiment. Ils peuvent louer Dieu, d'accord, ou exhorter leurs frères et sœurs, ou simplement aligner des paroles d'une éloquente beauté, ce que j'appelle le patois de Canaan, sans que le cœur soit vraiment participant dans la moindre mesure et sans qu'il y ait aucun cri qui monte vers Dieu dans un but bien défini. S'il en est ainsi, est bien d'une façon trop répandue, hélas, dans le domaine de la prière publique, je ne puis rien dire des prières secrètes, n'ayant à juger que la mienne qui est propre dans ce domaine. Oui, qui n'est pas toujours propre parfaitement, et je m'en humilie à nouveau. Il le faut que nous soyons honnêtes, mais il faut que la mienne et la vôtre soient donc correctes dans tous les domaines. Et trop souvent, je me suis surpris moi-même à prier d'une façon indéfinie, suivant une certaine routine, malheureusement, prononçant les paroles habituelles, sans vraiment adresser à Dieu mes supplications pour une chose bien définie. Je pense, et je pense toutefois, que dans la tête ou dans le tête-à-tête avec Dieu, pas seulement dans ma tête, mais dans le tête-à-tête avec Dieu, eh bien les gens, il me semble, sont moins tentés de faire des phrases pour plaire aux hommes et que leurs prières sont alors plus sincères. Ça, c'est important. Je ne veux du reste pas dire que l'exhortation ou la louange publique soit mauvaise en elle-même, pas du tout. Bien au contraire, Dieu s'en est souvent servi pour glorifier son Saint-Nom, mais ces choses ne devrait jamais se substituer à la prière ni prendre ce titre. La prière, je le répète, consiste à demander. Et si elle ne demande rien, ce n'est plus la prière dans le sens scripturaire du terme. Oh oui, mes chers amis, je vous conjure, quand vous vous présentez à Dieu pour prier, apprenez à lui exposer simplement vos besoins et vos désirs, que vos requêtes soient bien définies et attendez-vous, chers amis, à recevoir aussi des réponses précises de la part du Seigneur. Dieu est riche en bénédictions et il désire nous les prodiguer, ces bénédictions, et il n'attend que notre prière pour nous les donner. Et quand la fille aînée d'un pasteur n'avait encore que 3 ans, elle lui apprit une fameuse leçon, car quand il faisait la prière à table, elle commençait à dire « Amen, Amen » avant même qu'il soit parvenu à la fin, car elle savait fort bien que cela allait se terminer bientôt. Le pasteur se demandait comment elle pouvait le deviner, et il réalisait que cette prière, telle un disque de gramophone, était prononcée plus ou moins distraitement, et ceci à chaque repas dans des termes toujours les mêmes. Ainsi l'enfant affamé, qui avait hâte de manger son repas, se rendait compte quand le pasteur, son papa, parvenait presque au bout de son oraison, et tout à coup, ce cher pasteur a compris. Et il a compris par cela que sa prière était devenue une vulgaire ritournelle, qu'il n'était après tout qu'un pharisien hypocrite. Et il a reconnu cela, un pharisien hypocrite, usant de phrases toutes faites qui, si elles avaient eu un sens autrefois, n'en avaient plus guère du fait de leur constante répétition comme un moulin à prière. Et cela lui a fait honte de penser que nous pouvons prétendre de prier alors que nous ne demandons rien du tout à notre Dieu. Et cette triste tendance de prononcer des soi-disant prières qui n'attendent rien de Dieu n'a servi qu'à encourager l'incrédulité et à jeter le doute sur le Dieu de la Bible, de sorte que des millions d'êtres humains ont cessé de croire que la prière puisse rien faire pour changer l'état des choses. elle n'est pour des multitudes de gens religieux qu'un pieux exercice, en quelque sorte une forme de discipline de l'âme ayant des résultats uniquement subjectifs, mais ne recevant aucun exaucement objectif de la part du Dieu auquel elle est adressée. Si la prière est avant tout l'acte de demander à Dieu, elle doit donc jaillir de notre cœur. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 3, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré. » Et cela est évident. Ce n'est que l'âme assoiffée qui demande vraiment. Dans l'évangile de saint Marc, chapitre 11, verset 24, là il nous est dit « Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous verrez la chose se réaliser. » Le désir du cœur est à la base de toute réelle prière. Il est bon de prier à haute voix, certes, mais on peut également le faire à voix basse. Dieu n'est pas sourd. Il y en a qui pensent qu'il faut crier, mais vraiment comme Hitler criait ses prêches, on peut presque dire. Non. On peut même prier à voix basse, car heureusement, Dieu n'est pas sourd. Et même nos prières silencieuses dans notre cœur sont entendues, sont reçues. Le véritable cri du cœur peut s'exprimer en dehors des mots et des phrases, par des soupirs inexprimables, ou encore dans l'attitude silencieuse, dans l'attente de la foi. Mais toute prière réelle doit procéder du cœur, de notre esprit, de notre âme, qui s'élève vers Dieu pour lui exposer ses besoins. Oh, quelle abomination que cette caricature de la prière qui n'est pas la requête sincère d'un cœur droit. Ayons, chers amis, un cœur droit. Beaucoup trop de nos prières sont semblables aux incantations des sorciers ou aux rites de certains cultes modernes. Elles peuvent posséder le rythme, l'éloquence, la beauté esthétique, etc. Mais ce ne sont pas de véritables prières, étant donné qu'elles ne demandent rien du tout. La coutume de faire un jeu d'orgue en sourdine à l'heure de la prière prouve suffisamment qu'on n'est pas vraiment occupé à ce saint exercice et qu'on recherche plutôt la beauté esthétique, ce qui on appelle au sens. Quand une cliente fait sa commande à l'épicier, elle ne va pas plus citer des poèmes classiques, je pense pas, n'est-ce pas? Elle va pas chez l'épicier pour citer des poèmes classiques, jamais. Et quand un chef de gare télégraphie ou envoie un SMS, un employé de chemin de fer à un employé de chemin de fer, eh bien, il n'emploie pas pour cela des illustrations poétiques ou des phrases éloquentes, je ne pense pas. Et quand un mendiant, qui se présente à la porte pour vous demander une tasse de café et une tartine, il ne discourt pas sur les charmes du soleil couchant. Ainsi, mes chers frères et sœurs, quand tu viens au Seigneur, demande-lui tout simplement, s'il te plaît, ce dont tu as besoin. Et puis il va ton chemin, tu vas toi, tout simplement après cela ton chemin, car tu sais que le Seigneur t'a entendu, tu vas ton chemin en emportant maintenant avec toi la bénédiction reçue de la main divine. Apprenons, chers amis, à prier en demandant tout à notre Dieu. Chers amis, nous avons vu que prier, c'est vraiment de demander. Ce n'est ni l'adoration, ni la méditation, nous l'avons déjà dit, et non plus la louange. C'est ni un simple exercice spirituel, d'intelligence, raffiné, pas du tout. Toutes ces choses sont excellentes et ont leur place, pourquoi pas, certes, peut-être dans la vie du chrétien, pourquoi pas, mais elles ne sont pas, à proprement parler, carrément, sincèrement, la prière que nous essayons d'expliquer maintenant. Car, je le répète, prier, c'est avant tout de demander. Vous ne possédez pas, c'est ce qu'il nous est dit, parce que vous ne demandez pas. Jacques, chapitre 4, verset 2. Nous avons donc la promesse, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. D'innombrables passages des Écritures saintes montrent clairement que prier consiste à demander quelque chose à Dieu. L'autre côté de cette vérité, c'est que si la prière consiste à demander, l'exaucement doit nécessairement consister à recevoir. C'est la volonté de notre Père Céleste, dans son amour infini, que nous venions à lui jour après jour pour demander ce qui nous est nécessaire et de le recevoir de lui. Bien des prédicateurs ont une façon de masquer le déclin de leur foi en présentant des alibis pour l'absence d'exaucement de leurs prières. Ils vous diront par exemple « Oh Dieu, il a trois façons d'exaucer la prière. Il peut répondre oui, ou bien il peut répondre non, ou encore, attends quelque temps. » Alors, un tel enseignement, me semble-t-il, en revient à dire que le chrétien doit être content de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, et il doit être satisfait de tout ce qu'il juge bon de lui infliger. Mais le fait est que cela enseigne tout le contraire de la doctrine biblique sur la prière. Cela nous fait considérer la prière comme une chose mystique, indéfinie, grâce à laquelle on peut obtenir ou non ce qu'on désire, n'ayant aucun moyen certain, surtout jamais certain, de connaître la volonté de Dieu à notre égard. Cela vous laisse l'impression qu'il ne vaut guère la peine de prier, et somme toute, puisque Dieu ne fera quand même que ce qu'il a décidé de faire, donc pourquoi nous en mêler? Et tout ce qui contribue à rendre la prière vague, ô combien vague et indéfinie, l'exaucement incertain surtout, et donc contraire à l'enseignement précis de la parole de Dieu. Aucune personne sensée ne se contenterait de transactions aussi nébuleuses dans aucun autre domaine de la vie, me semble-t-il. Premièrement, les Écritures saintes enseignent que la réponse à la prière consiste à recevoir ce que on a demandé. Cette notion indéfinie de la prière qu'ont les hommes et les femmes aussi de notre siècle n'était pas du tout celle des croyants de la Bible, mais pas du tout. Les promesses divines nous enseignent clairement que nous devons attendre de Dieu la chose précise que nous lui demandons si nous prions de la bonne manière. Oui, Jésus-Christ Il nous dit dans Saint Matthieu chapitre 7 verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Si, selon ce passage des Saintes Écritures, la prière consiste à demander l'exaucement, consiste donc, il me semble, à recevoir. Si d'après cette parole de Jésus-Christ, chercher, c'est prier, alors trouver est la réponse à la prière. Si frapper est encore une phase de la prière, alors la réponse de Dieu consistera à nous ouvrir la porte. Il n'est nullement question ici de l'alternative d'un non de la part de Dieu ou d'un attends encore quelques années. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 24, Jésus nous dit encore une fois, demandez et vous recevrez. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 2, nous lisons, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Obtenir de Dieu est donc la réponse logique de la prière. J'ai été très encouragé dans cette voie par l'excellent ouvrage du docteur Blanchard sur ce sujet-là. Il avait bien expliqué que obtenir de Dieu, dans ses chapitres sur qu'est-ce que l'exaucement de la prière, il dit ceci, écoutez bien. J'ai entendu fréquemment de chers enfants de Dieu affirmer que si Dieu refuse de nous accorder ce que nous désirons, la réponse est aussi réelle que s'il nous l'accordait. Il répond, parfois oui et parfois non, mais il exauce quand même, toujours, car le non est une réponse tout comme le oui. Cela m'a toujours paru à la fois cruel et léger de traiter ainsi les besoins de l'âme, de l'esprit, bien que ceux qui s'expriment de la sorte n'en aient sans aucun doute l'intention. Un tel enseignement me paraît donc purement destructif de la foi. L'auteur nous donne alors l'exemple d'une mère éplorée. Elle priait pour la vie de son enfant, mais sa prière n'étant pas dans les règles aux yeux de Dieu, l'enfant meurt. L'exemple d'un homme d'affaires qui, dans ses difficultés financières, a recours à Dieu, mais n'ayant pas prié selon sa volonté, il fait banqueroute et son affaire est ruinée. Voici encore un homme qui est assailli par la tentation. Il prie, mais n'étant pas dans les conditions requises, il ne reçoit aucun secours et il tombe dans la honte qui rejaillit sur toute sa famille et même sur son Église. En pareille circonstance, dit encore le docteur Blanchard, de braves pasteurs vous répondront « Oh non, Dieu n'a pas refusé votre prière, il a simplement répondu non. » Eh bien, je ne crois pas, moi, à cet enseignement-là, et je ne pense pas qu'il puisse apporter aucune consolation à la pauvre mère en deuil devant la tombe de son enfant, pas plus que à ce que ce soit. Je crois qu'il tend plutôt à faire des incrédules que des chrétiens. Le même auteur, il dit encore, une réponse à la prière, c'est accorder la chose que l'enfant de Dieu a demandée à son Père céleste, et ceci selon les directions reçues de lui. Si un croyant prie pour sa propre guérison, ou celle d'un enfant ou d'un ami, et que Dieu réponde à sa prière, alors cette guérison sera un fait accompli. S'il prie pour être délivré de ses difficultés pécuniaires, par exemple sur le terrain de la parole de Dieu, surtout, il en sera, croyez-moi, délivré. Et s'il réclame la victoire sur les puissances du mal, d'après les Écritures saintes, il obtiendra, croyez-moi, cette victoire-là. L'exaucement de la prière, c'est obtenir la chose qu'on désire. Dire non à une requête n'est pas une réponse à la prière dans le sens réel et substantiel du terme. Quand Dieu répond à nos prières, c'est pour nous dire oui. Pour citer encore le docteur Blanchard, ma conviction inébranlable, c'est que la prière exaucée est celle qui obtient les résultats désirés. Dire que la réponse peut être oui ou non, et que cette dernière est autant une réponse que la première, cela me semble une pure moquerie, et ceci pour les cœurs meurtris, pour les âmes assoiffées de pauvres humains. Il est vrai que la réponse divine normale doit être une réponse positive aux prières des chrétiens. Si toutefois ils prient selon les conditions posées dans les Écritures saintes, alors le croyant qui ne reçoit pas d'exaucement doit se demander sérieusement quelle est ou quelle en est la cause de ce non. Ce ne peut être Dieu qui a tort, je ne pense pas. Il s'agit donc de découvrir par la parole, par sa sainte parole et la direction de l'Esprit Saint, pourquoi sa prière n'est pas exaucée. Cela rend la prière une transaction simple et compréhensible, et le secret de l'exaucement complet et total de nos prières nous sera bientôt révélé si nos cœurs sont droits, si nos cœurs sont droits foncièrement consacrés et que notre foi étayée soit sur la parole de notre Dieu. Deuxièmement, nous allons voir maintenant comment prier selon la volonté de Dieu de manière à ce que nous puissions recevoir une réponse positive. Nous savons tous, hélas, que le chrétien moyen, on peut bien le dire, que le chrétien moyen et ce chrétien-là doit donc vraiment avoir un cœur pur. Ça, c'est important. Car nous devons prier dans l'esprit de recevoir. Et donc, le fait est, et je pense, qu'il ne s'attend même à rien de semblable, celui qui demande vaguement. Et ses prières sont indéfinies. Elles ne réclament rien de positif. Elle ne réclame rien de concret, elle ne s'attend pas ou si peu à une réponse précise. La prière ordinaire ne consiste donc pas à demander et ne s'attend donc pas à recevoir. Je répète, la prière ordinaire ne consiste pas à demander et elle ne s'attend donc pas à recevoir forcément. Et c'est sans aucun doute pour cette raison que tant de chrétiens ajoutent à chacune de leurs requêtes cette condition « Si c'est ta volonté ». Nous demandons à Dieu d'envoyer le réveil. « Si c'est ta volonté ». Nous prions Dieu de sauver les pécheurs pour lesquels Jésus-Christ est mort et qu'il languit d'attirer à lui ses cœurs perdus, ses âmes perdues. Et nous disons si c'est ta volonté. Nous demandons à Dieu les choses qu'il a promises de nous donner, qu'il désire ardemment nous accorder, et pour lesquelles il nous engage à prier, et puis nous y ajoutons encore une fois un point d'interrogation. Non, Moi, j'essaye de demander toujours que ce soit selon ta volonté. Selon ta volonté, Seigneur. C'est pas la même chose que si c'est ta volonté. Que Dieu nous pardonne. Nous mettons un « si » dans nos prières quant au salut des pécheurs, quant au réveil, quant à l'accomplissement des promesses de notre Dieu, mais ceci n'est nullement l'expression de notre soumission à sa volonté, c'est plutôt le signe de notre propre incrédulité. Cela indique que nous sommes encore à tâtonner dans les ténèbres, n'ayant aucune assurance que Dieu veuille nous écouter et nous accorder les choses que nous lui demandons. Supposez que votre pasteur, dans son serment, mette un « si » à la naissance miraculeuse de Christ, comme vous le faites quant à sa bonne volonté d'accomplir ses promesses. Que penseriez-vous de son orthodoxie ? Vous serait-il agréable d'entendre un prédicateur dont les messages seraient toujours pleins d'ambiguïté, de doute, dont la doctrine n'aurait rien de positif, aucune note de victoire, ni d'assurance, et aucun terrain solide sur lequel étayer vos certitudes? Pensez-vous qu'une telle prédication serait agréable à Dieu? Eh bien, il ne lui est pas plus agréable de vous voir venir à lui, et ceci avec des restrictions mentales, avec tous les « si » et des « peut-être », et à l'égard des choses qu'il a lui-même promis de vous accorder en réponse à la prière. Non, 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 Dieu veut que nous découvrions comment prier selon sa sainte volonté pour tout ce qui constituera à glorifier son saint nom. Puis, il veut que nous attendions des réponses définitives et positives à ses requêtes. Si nous lui demandons du pain, il veut que nous attendions du pain et non pas une pierre ou un scorpion. Si nous demandons du poisson, il veut que nous attendions de recevoir du poisson et non pas un serpent, surtout venimeux. Si nous demandons un œuf, il veut que nous attendions de lui cet œuf et non pas un scorpion. Il veut vraiment que notre prière soit sur la base de demander et de recevoir. Je répète, il veut, c'est son désir, que nos prières soient sur la base de demander et de recevoir. Et cela, sans toute la simplicité. Oui, dans toute la simplicité. Je répète, parce que je me suis trompé, il veut que ce soit tout cela dans toute la simplicité d'un enfant envers son papa. C'est aussi simple que cela. Mais pour cette prière-là, il y a des conditions importantes à remplir, évidemment, et que je nommerai ainsi. Tout d'abord, il doit y avoir un abandon total à la volonté de Dieu. Il ne peut exister une vie de prière victorieuse et pleine de joie pour un enfant de Dieu vivant dans la rébellion. Nous trouvons au psaume chapitre 37, verset 4, où il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est pas merveilleux cela, Ce que ton cœur désire. C'est beau cela, N'oublions donc pas que les premiers ou les premières requêtes que Christ nous a enseignées dans la prière dominicale sont toujours que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu est vraiment notre Père. Et les enfants doivent être soumis. Oui, nous devons être soumis à notre Papa céleste. Nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous avons été rachetés à un prix très lourd, à un prix infini du précieux sang versé sur la croix. N'oublions jamais cela. Il ne peut y avoir de victoire dans la prière à moins que le cœur soit humblement courbé devant Dieu en disant « Père, montre-moi comment prier dans ta volonté. Je veux demander ce qui te glorifiera le plus. Je veux recevoir ce que tu veux m'accorder. » Tout chrétien désireux de prier de façon à recevoir jour après jour exactement ce qu'il demande doit commencer par prier comme les disciples autrefois. Seigneur, enseigne-nous à prier. Saint Luc chapitre 11, verset 1. C'est le bon plaisir de Dieu d'exaucer les prières d'un cœur qui est soumis, qui est totalement abandonné et obéissant à sa sainte volonté et selon sa sainte volonté. Dans Jacques chapitre 4 verset 2, nous avons cette promesse remarquable, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu a tant de choses merveilleuses à nous donner et il languit de nous les accorder, attendant seulement pour cela que nous les lui demandions. Cependant, le verset suivant nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but surtout de satisfaire vos propres passions. » Oh oui, des cœurs mauvais qui recherchent le succès dans la prière sans se placer sur le terrain divin, d'une totale consécration, sont donc voués, croyez-moi, à la faillite. Sans nul doute, voilà l'explication de notre manque de foi, de notre manque d'enthousiasme, du zèle, hein, de victoire dans la prière. Nous demandons mal afin de le dépenser pour nos propres convoitises. Hein? Tout simplement, toujours nous, le moi. Souvent, une épouse prie pour la conversion de son mari, hein, et elle voudrait tant voir son mari sauvé. Mais parfois, il arrive que ses mobiles secrets sont impurs. Elle pense peut-être en elle-même, si seulement mon mari était chrétien, il m'amènerait au culte le dimanche matin, et puis il serait tellement plus agréable à la maison. Ainsi, tout en priant pour une chose que Dieu désire accomplir, il ne peut l'exaucer parce que son cœur n'est peut-être pas droit. Et il faut que le cœur de cette femme soit purifié avant que Dieu puisse sauver son mari. Pas seulement de penser, eh bien, il y aura un peu plus d'argent, car il sortira un peu moins avec ses copains. Bien des chrétiens font obstacle ainsi à l'exaucement de leurs prières, prières auxquelles Dieu se plairait à répondre si cela pouvait contribuer à sa sainte gloire et non pas pour les encourager, pour nous encourager dans le péché. Ô combien il est important, chers amis, que le cœur soit toujours pleinement livré, droit et sincère au Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, nous devons avoir une compréhension de la sainte parole de Dieu qui nous permet de discerner sa sainte volonté. Comment pouvons-nous demander en pleine assurance ce que Dieu est disposé à nous accorder, à moins de connaître sa volonté révélée. Écoutez bien, à moins de connaître sa volonté révélée dans quoi ? Dans la parole, dans sa sainte parole. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Saint Jean chapitre 15, verset 7. Nous voyons ici que pour obtenir ce que nous demandons à Dieu, il importe de demeurer en Christ et que sa sainte parole demeure en nous. Impossible de connaître la volonté de Dieu à moins d'être familier avec sa sainte parole. Évidemment, d'ouvrir la Bible seulement à Noël, ça ne fonctionnera pas. Au psaume chapitre 1, versets 1 à 3, comme dans Josué chapitre 1, versets 7 à 9, nous comprenons que la prospérité du croyant est liée avec sa connaissance de la parole de Dieu, qu'il est appelé à méditer jour et nuit, pas seulement à Noël. Prenons par exemple le précieux ou la précieuse promesse de la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, encore une fois, car c'est important, si nous confessons nos péchés, mes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour me les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, et me purifier de toute iniquité. En s'appuyant sur ce verset, un chrétien, quel qu'il soit, peut obtenir le pardon immédiat et la purification de son cœur, pourvu qu'il remplisse la condition divine en confessant honnêtement son péché. N'ayons jamais peur de confesser nos saletés. Il a le droit de s'étayer sur le solide roc de la parole de Dieu. Alléluia! Ce serait un péché pour le croyant que de douter du pardon divin, et ceci dès l'instant où d'un cœur droit et sincère, il a confessé tout ce qui n'est pas tout à fait droit dans son cœur. D'autre part, un chrétien profondément pénétré de la parole divine ne saurait prier pour obtenir les richesses de ce monde au détriment des valeurs spirituelles. Si nous connaissons, s'il connaît et s'il croit les paroles du Sauveur, il va se souvenir de Saint Matthieu chapitre 6 verset 33 où il est dit « Cherchez premièrement quoi ? Les richesses de ce monde ?» Ah non, non, non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il saura bien que les richesses spirituelles sont infiniment plus importantes que les biens de ce monde qui vont se rouiller tôt ou tard, et que c'est en donnant toujours la prééminence aux intérêts du royaume de Dieu qu'on obtient la plus grande joie, la plus grande prospérité, le seul réel bonheur ici-bas. Gloire à Dieu. Il sera assuré que quiconque cherche premièrement le royaume de Dieu aura toujours, toujours du pain à manger, des vêtements et un toit sur sa tête. Plus encore par-dessus, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Moi, j'ai compris que je ne peux pas mettre deux complets en même temps, deux paires de souliers en même temps, que je ne peux pas manger deux repas à midi en même temps. Un simple repas me suffira amplement. Donc, chers amis, la prière qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, elle ne saurait lui être agréable. Souvenons-nous de cela. Ainsi, les groupes de croyants qui mettent l'accent sur la prière au détriment de la parole de Dieu risquent fort de tomber dans le fanatisme, l'extrémisme, la recherche morbide d'expériences extatiques, mais pas de toujours. Elles ne seront jamais toujours en accord avec la volonté divine et de ne pas recevoir ainsi l'exaucement désiré. Et troisièmement, enfin, chers amis, pour prier selon la volonté de Dieu, nous avons besoin de la direction, surtout du Saint-Esprit. J'ai prié au début que le Saint-Esprit s'empare de ma bouche, car je n'étais pas sûr du tout de pouvoir parler, tellement que j'étais enroué et que le nez coulait. Il semble qu'il ne coule plus tellement. Ne vous êtes-vous pas aperçu? Je suis sûr que oui. Donc, dans cette inspiration de l'Esprit Saint, nos pauvres esprits humains, qui sont quand même bornés, risqueraient de s'en tenir à la lettre de la parole sans pour autant discerner sa sainte volonté divine. Car les choses spirituelles ne sont discernées que par le moyen de l'Esprit Saint. Et il existe des milliers de détails dans lesquels nous avons besoin d'être conduits et qui ne sont pas mentionnés littéralement dans la Bible. Et cela va sans dire. Par exemple, quel sera le thème de mon prochain sermon? Si je dis cela le dimanche matin, ça sera un peu tard. Quel sera le thème de mon prochain sermon? À quel pécheur devrais-je adresser la parole? De quelle manière m'approcher de telle ou telle âme? M'est-il permis de demander à Dieu une nouvelle voiture? Ou dois-je me contenter de la vieille pour le moment? Est-ce la volonté de Dieu que mes enfants apprennent la musique ou fassent du patin artistique? Est-ce dans le plan de Dieu que j'entreprenne telle ou telle affaire, etc.? Il y a ainsi quantité de questions qui réclament une direction absolument personnelle du Saint-Esprit de Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas prier selon sa volonté, ni avoir l'assurance de recevoir exactement ce que nous aurons demandé. Mais, béni soit Dieu, c'est la prérogative de tout enfant de Dieu, vous comme moi, de posséder le Saint-Esprit et son secours dans la prière. Il nous est dit dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27, « De même aussi, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car vous ne savez pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit Saint, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Je répète Romains 8, versets 26 et 27. Il est bien vrai que nous ne savons pas du tout prier comme il convient. Mais dans ce domaine, le Saint-Esprit est là, gloire à Dieu, pour venir au secours de notre infirmité. Il intercède, il intercède toujours pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Ainsi, notre prière inspirée et dictée par l'Esprit Saint s'élève jusqu'au cœur de Dieu et nous obtenons ce que nous demandons parce que le Saint-Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Donc toute prière inspirée et dirigée par le Saint-Esprit peut être assurée de recevoir une réponse. Si nous prions selon la volonté de Dieu, notre prière ne saurait rester sans réponse. Quelqu'un a dit, avec juste raison, que la prière qui a sa source au ciel, je répète, la prière qui a sa source au ciel est sûre de n'être pas rejetée là-haut. Donc, chers amis, le Saint-Esprit est appelé par le Seigneur Jésus-Christ, le Consolateur. Saint Jean chapitre 14, verset 16, verset 26. Et je crois aussi au chapitre 15, verset 26, ainsi que le chapitre 16, verset 7. Je répète, le Saint-Esprit, il est appelé vraiment par le Seigneur Jésus, le Consolateur. C'est le Parakletos en grec, qui signifie littéralement appelé le long du chemin. Ainsi, l'Esprit béni est avec le chrétien tout le long du chemin. Alléluia! Nous allons, chers amis, avant de terminer par la prière, d'essayer de nous rappeler. Si vous ne recevez pas ce que vous demandez, il vous faut rechercher honnêtement ce qui ne va pas, ce qui ne va pas dans notre vie de prière. Ne prétendez pas être exaucé avant d'avoir reçu ce que vous avez demandé. Ou il faut changer de tactique dans la prière pour que Dieu puisse l'exaucer, ou bien il vous faut vous corriger de toute faute, de tout péché qui attriste le Saint-Esprit et qui entrave l'exaucement. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière et rappelez-vous que j'étais absolument pas sûr et on aurait plutôt la raison de dire je n'étais absolument pas certain du tout que j'arrive à parler ce message et mon nez coulait, mais comment? Mais, avez-vous remarqué? Le Seigneur a répondu à la prière. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous t'implorons par des prières humbles et ferventes. Car oui, ton Saint-Esprit peut seul subvenir à notre faiblesse et agir en nous selon tes promesses sacrées. Que cet esprit de lumière et de vérité sanctifie nos cœurs, qu'il nous conduise aux pieds de ce merveilleux Sauveur plein de miséricorde, qui est venu dans le monde pour nous enseigner le chemin qui conduit au royaume de ton Père et qui est mort pour nous obtenir le salut éternel. Puissions-nous écouter ta voix qui ne cesse de nous appeler et de se faire entendre, non seulement autour de nous, mais au fond de nos cœurs. Ô Seigneur, nous t'invoquons pour nos familles, pour nos amis, pour tous les hommes et femmes qui sont nos frères et sœurs, pour les malheureux et les affligés, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oh oui, exauce Seigneur nos imparfaites prières au saint nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé, notre unique Sauveur. Amen. Et chers amis, encore une fois, je vous remercie pour toute la patience, pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et je suis certain, maintenant, tout à fait, que le Seigneur va vous venir en aide à beaucoup d'entre vous et que vos prières vont être exaucées, car il vous aime et il aime que nous ayons confiance en lui. Et n'oublions jamais que nos prières doivent être en accord avec l'Esprit Saint de Dieu. À bientôt à nouveau, mes très chers amis, et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, chers amis.